Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un honneur de pouvoir se retrouver parmi vous et d'être ensemble pour louer notre Seigneur, pour le remercier, pour lui rendre grâce et gloire pour tout ce qu'il fait pour nous. J'ai intitulé cette méditation, cette réflexion d'aujourd'hui, différence d'attitude. Alors bien souvent, on ne retient de cette parabole que ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire deux hommes montèrent, ainsi de suite. Mais il faut souligner le but de cette parabole, qui est dans le premier verset. Le but de cette parabole, elle s'adresse à certaines personnes qui se persuadent qu'elles sont justes et qu'elles ne font aucun cas des autres. Ou alors, dans une autre version, il est dit « à l'adresse de certains qui se flattent d'être justes et n'avaient de mépris que pour les autres ». Les apparences sont parfois trompeuses. Ceux qui paraissent pieux ne le sont pas nécessairement. Et à l'inverse, la vraie piété peut se retrouver chez ceux dont on s'attend le moins. Cette parabole pose la question de l'attitude de notre cœur, de l'esprit qui nous anime. Par notre attitude, nous montrons nos sentiments envers une situation donnée. Elle peut être bonne ou mauvaise. Jésus met ici en décalage, en différence d'attitude, deux personnes et souligne l'importance d'adopter, bien sûr, la bonne personne. Jésus cherche toujours à dégager la bonne chose. Chers frères et sœurs, il ne se passe pas une journée sans que nous ayons à réagir devant toutes les situations qui se présentent devant nous. Les circonstances varient en fonction des personnes et aussi en fonction du moment de la journée et de notre humeur aussi. Cela peut être plus ou moins difficile. Mais aux yeux de Dieu, ce ne sont pas tant les circonstances qui sont le plus important, mais plutôt la façon que nous réagissions face à ces circonstances. Quelle est notre attitude? Quelle est la disposition de nos cœurs? C'est à cela que Dieu s'intéresse. Quelle est l'attitude de ton cœur? Ce passage décrit l'attitude du cœur que Dieu désire retrouver en nous. Deux personnes se dirigent au temple. La première est la question d'un pharisien. Pharisien, donc, faisait partie du groupe des pharisiens qui formait un parti religieux qui jouissait d'un grand respect auprès du peuple juif. Ceux-ci insistaient sur l'application de la loi à tous les détails de la vie quotidienne. Et s'imposait aussi souvent une rigueur personnelle qui parfois dépassait ce que la loi pouvait exiger. Et nous savons que Jésus n'est pas tendre avec eux. L'image que véhicule le pharisien, c'est la piété même. Et nous voyons que c'est tout le contraire pour le publicain. Donc le publicain, c'est quelqu'un qui est détesté de tous. Et ce n'est pas seulement parce que la population n'aimait pas payer les impôts, ils étaient sous gouverneur et gouvernance romaine, ils n'aimaient pas payer d'impôts, bien sûr. D'autant plus que les Juifs n'acceptaient pas que cela puisse être fait par un des leurs. La question de l'impôt de César a toujours fait l'objet d'un débat au sein des Juifs. Souvenez-vous, un nouveau piège qui a été tendu à Jésus en disant « Mais est-il permis ou non de payer le tribut, de payer l'impôt à César ?» dans Matthieu 22. Alors, il y a deux réponses à une question, à soit oui, soit non. Si Jésus avait dit non, ils avaient là une occasion de le dénoncer au gouverneur romain en disant « Tiens, celui-là ne veut pas que nous payions ton impôt. » Et inversement, s'il avait dit oui, il pouvait espérer détruire son influence dans le peuple qui haïssait les Romains et les taxes. Par ailleurs, et pour le savoir, pour la petite histoire, pour renforcer un petit peu le caractère de compréhension de ce texte, à l'époque, il n'y avait pas de loi qui protégeait les contribuables. Là, aujourd'hui, nous avons quand même toute une batterie de lois qui est censée nous protéger, qui nous protège. À l'époque, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de loi contre les abus. Aujourd'hui, on entend parler d'abus de faiblesse, d'abus de biens sociaux, d'abus de ceci, d'abus de cela, d'abus de pouvoir. À cette époque-là, ça n'existait pas. Et les Romains n'en avaient que faire. Eux, ce qui comptait, c'est qu'ils récupèrent leur tribu, la contribution des peuples qui étaient mis sous domination. Alors, pas étonnant que la réputation de malhonnêteté des publicains les suivait partout. On peut comprendre également pourquoi lui n'avait pas l'habitude de fréquenter un lieu aussi saint que le temple. Le fait que cette parabole présente un collecteur d'impôts en train de prier dans un temple est en soi déjà assez surprenant. Qu'est-ce qu'un publicain, on va dire quasiment un ennemi du peuple, mais intouchable, venait faire dans un lieu saint? Et alors là, imaginons la scène. Donc pour l'auditoire, pour les autres personnages présents, le pharisien, c'était le héros de cette histoire, de cette parabole. Aux premières lectures de ce texte, j'ai dit, mais le pharisien, c'est presque Dieu sur terre. Il représente l'homme pieux, qui mène une vie honnête, qui mène une vie intègre. Donc il faut que nous sachions lire cette parabole en se disant au départ que le pharisien, effectivement, il représente tout ce qui est bien, et que le publicain, le contraire. Mais la parabole, quand on la lit et relit dans son intégralité et qu'on essaie d'en découper les différents passages, on s'aperçoit que la parabole se chargera de mettre tout cela à la lumière divine. Voyons l'attitude en détail du pharisien, je dirais l'orgueil du pharisien. Dans sa prière, le pharisien se compare à plusieurs transgresseurs de la loi, les ravisseurs, les injustes, les adultères et les publicains. Et en mentionnant spécifiquement le publicain qui se trouve à côté, il déclare de lui porter un jugement méprisant. Et celui-là, quand on dit celui-là, celle-là, c'est impersonnel. C'est comme si on ne s'adressait pas à un être humain. Oui, celui-là au fond. Son sentiment de supériorité est en partie fondé sur sa scrupuleuse participation aux pratiques religieuses juives. Là, notamment, il en mentionne deux principalement. Au verset 12, le jeûne et la dîme. Deux grands sujets, le jeûne et la dîme. En ce qui concerne le jeûne, pour l'histoire, il était du devoir de tout Israélite de jeûner une fois par an, le jour des expiations, dans Lévitique 16, verset 29. C'est la seule que prescrivait la loi. Et là, il nous dit que celui-là, deux pharisiens, je ne sais pas comment il s'appelle, deux fois par semaine, on lui demande une fois par an, deux fois par semaine. Il y a combien de semaines dans une année, si je ne me trompe pas, c'est 52, donc 104 fois, 104 jeûnes, 104 contre 1. La cote est bonne. Même chose pour la dîme. La loi ordonnait le prélèvement d'une dîme sur les produits de la terre, une fois la récolte terminée. On apportait 10% de ces récoltes. Ici encore, il nous dit, je donne la dîme de tous mes revenus, tous. Alors il va dans l'extrême. Tout. Mais le problème, c'est que sa religiosité semble avoir érigé un mur le séparant de son prochain et l'empêchant même d'avoir de la compassion vers lui. Non mais Seigneur, tu vois bien que je suis pas comme lui. Tu vois bien que je suis meilleur que lui. Tu vois bien ce que je fais. Et ce pharisien même, il commence sa prière. Bien sûr, il rend gloire à Dieu. Mais il rend gloire à Dieu pourquoi ? Donc il dit, ô Dieu, verset 11, je te rends grâce. Nous avons chanté tout à l'heure, hein, gloire à Dieu, grâce à Dieu. Voilà. Je te rends grâce. Mais la chute, la suite, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres. Ah, c'est pas pareil. C'est pas je te rends grâce, Seigneur, pour ta majesté, ta sainteté, pour ta miséricorde envers moi, et ainsi de suite, pour l'image de Dieu. Non, je te rends gloire, mon Dieu, pour mon image. Sa prière consiste à énumérer des actes purement extérieurs, dans lesquels son cœur n'a même pas de part. Son attitude est imbue de sa propre bonté. Seigneur, tu te rends compte, mon Dieu, je jeûne 2 fois par semaine. Et je donne la dîme de tout ce que j'ai. C'est comme s'il disait à Dieu, Seigneur, je te remercie pour la qualité de ma personne. T'as vu que je suis un mec bien. Il s'auto-félicite. Alors, quelle est la part de Dieu dans cette prière? On se le demande. Et d'un autre côté, le deuxième point, voyons l'attitude du publicain. Tu peux passer, voilà. Alors déjà, il y a une précision, c'est que le publicain, lui, se tient à distance. L'attitude du publicain est radicalement différente, hein. À l'inverse du pharisien qui vient devant, qui aime bien se faire remarquer, quand on vient devant, forcément, comme on a traversé et passé devant tous les bancs, tout le monde nous a vus. La personne la moins remarquée, c'est celle qui est assise au banc, à la place du fond. Là, je suis sûr que vous ne savez même pas qui est installé au fond. Parce qu'elle est derrière vous. Sauf si vous vous retournez. Mais si elle vient s'asseoir là, devant, vous ne verriez, je veux dire, presque qu'elle. Parce qu'elle est devant vos yeux. Le publicain se tient à l'écart du sanctuaire. On dirait qu'il a besoin d'un endroit tranquille pour communiquer ses pensées à Dieu sans se laisser distraire. Il semble connaître la gravité de ses péchés. Et assurément, c'est probablement et fort probablement avec une mauvaise conscience qu'il s'est rendu au temple. En fait, il est tellement accablé par le sentiment de son indignité qu'il n'ose même pas fixer les regards au ciel. Hein ? Il n'ose même pas lever les yeux au ciel. Il n'ose même pas simplement lever les yeux vers le plafond. Et en plus, il se frappe la poitrine. C'est un acte dramatique, hein, pour l'époque, hein, qui dénote une grande douleur, hein, se frapper la poitrine. Le publicain sait apparemment qu'il a fait terriblement tort à Dieu et qu'il ne mérite rien d'autre que sa réprobation. Elle dit, « Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Tu peux passer le reste du verset ? Voilà. Ok, on va revenir sur le 13. Voilà. Pour moi qui suis un pécheur, et plutôt le pécheur, mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Pas un pécheur parmi tant d'autres, mais comme le pécheur. J'assume le fait que je suis le pécheur, et pas noyé dans la foule. Nous sommes des pécheurs. Ça veut tout, mais ça ne veut rien dire. Quel genre de pécheur suis-je ? Et ce sentiment, on le retrouve même avec Paul. Dans 1 Timothée, il écrit « Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Paul se met en première position. Pas qu'il veut être le plus grand des pécheurs, ni celui que l'on remarque, mais il prend sa responsabilité pleine. Et il ne se cache pas. L'apôtre Paul, souvenez-vous, avant sa conversion au christianisme, avait persécuté l'Église de Dieu. Il avait fait emprisonner et il avait fait tuer des chrétiens. Et il devait, assurément, entre nous, ça devait rester au fond de lui. Il devait s'en rappeler. Je suis Paul, le premier des pécheurs, le pire d'eux. Et là, on voit que ce publicain, il est dans le même état d'esprit. Sa confession, elle se termine par ceci, « Mon Dieu, aie pitié de moi, ou sois apaisé envers moi. » Sois apaisé. C'est un mot grec hein, qui est traduit par « sois apaisé ». Sois apaisé comme un terme faisant allusion au sacrifice d'expiation dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Comme Jésus a été notre expiation. Le cri du publicain va dans le même sens et il pourrait être dit donc de cette façon que l'on voit hein, sois apaisé envers moi, que mes péchés soient expiés, que mes péchés soient pardonnés. Il se sent coupable devant Dieu. Il sait qu'il ne pouvait compter sur rien d'autre que Dieu, sur personne d'autre que Dieu pour être pardonné. Et en plus, il n'avait rien pour impressionner Dieu, contrairement aux pharisiens, qui a mis sa façon de jeûner et sa façon de payer sa dîme devant Dieu. Rien. Rien pour se justifier. Il s'adresse à Dieu tel qu'il est. Il ne revendique rien. Mais je suis peut-être le pécheur, mais je ne suis peut-être pas le plus grand. Je ne suis peut-être pas le pire. Il y en a peut-être d'autres qui font peut-être pire que moi, autre chose que moi. Mais non, il n'en est rien. Il se présente devant Dieu les mains vides, ayant pour seul espoir d'être pardonné par Dieu. Et là, verset 14, alors contrairement à ce que nous avions dit tout à l'heure, hein, le pharisien c'est la star, et le publicain le contraire. Et bien là, contrairement aux apparences, ce fut le publicain qui retourna chez lui justifié plutôt que l'autre. Car quiconque sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà, la parabole, elle est prise en sandwich. Hein, souvenez-vous du premier verset d'introduction. Pour montrer en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Et à la fin, de ce fait, de cette attitude, il est écrit que c'est celui qui reconnaît son état de pécheur, qui n'a rien à revendiquer, à mettre en avant devant Dieu et justifié. Nous devons nous-mêmes nous présenter à Dieu en toute humilité. Jésus l'annonce, hein, celui qui voudra s'élever sera abaissé. Celui qui voudra se justifier sera abaissé. Dieu n'a pas besoin de nos justifications. J'ai fait ceci pour une bonne raison, parce que cela. Dieu n'en a que faire. De nos excuses. Je ne sais pas si un jour mes collaborateurs écouteront ce message, mais pourquoi pas. J'utilise souvent une expression avec eux, parce que quand je leur demande quelque chose, alors ils viennent me dire, oui, non mais c'est parce que j'ai... Non mais comprends, c'est pas moi... Alors je dis, écoute, je t'arrête tout de suite, parce que Tu n'as rien à vendre, j'ai rien à acheter. J'ai pas acheté une explication, une excuse. Dieu n'a rien à acheter. On n'a rien à lui vendre. Ce n'est que lorsque nous nous humilions devant Dieu qu'il nous fait grâce en nous couvrant de sa justice. Le Nouveau Testament fait mention en effet d'une foi assurée pour décrire l'état du croyant qui est sûr de son salut. Mais un faux sentiment d'assurance fait croire à l'individu qu'il ira au ciel alors que la vérité en est tout autre. C'est le cas de ce pharisien. Il a tous les arguments à énoncer à Dieu pour lui dire « Seigneur, t'as vu, je suis juste devant toi. » Mais est-ce que moi je peux dire à Dieu « Seigneur, je suis juste devant toi ?» Qui peut dire « Je suis juste devant toi, Seigneur ?» Tout dans ses paroles montrait cette attitude, on va revenir aux pharisiens, tout dans son attitude montrait qu'il avait de l'assurance. Déjà, je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas mauvais et je fais que des choses bien. Ce pharisien avait une grande confiance en lui-même. Il était plein d'assurance. Il avait la certitude d'être juste, donc d'être sauvé. Car être juste signifie, par implication, être sauvé. Il était sûr de son salut plus que quiconque. C'est pourquoi il se permettait de dire « Je te remercie, Seigneur. Je te remercie. » Il était tellement sûr de sa droiture qu'il n'hésita pas une seconde à se comparer aux autres. « Non mais les autres, franchement, Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu vas faire avec eux? Ils n'en valent pas la peine. Regarde, lui là-bas, il récolte des impôts pour ceux qui nous dominent. » Mais le fondement de son assurance à ce pharisien, elle n'est pas établie au bon endroit. Sa confiance reposait sur sa propre personne, sur ses accomplissements, sur ses bonnes actions. Il a méticuleusement exclu toute impureté dans sa vie. Est-ce que vous croyez que le fait qu'il jeûne 2 jours par semaine le rend plus juste que quelqu'un qui jeûnerait qu'une fois par an ? Il a accompli ce que la loi lui a ordonné, mais il est allé même au-delà en disant « Tiens, un petit peu plus ne peut faire qu'éventuellement Dieu il peut être super content de moi et que j'aurai une super bonne place là-haut. » Vous savez, c'est comme dans un stade. Il y a soit l'équipe, soit le chanteur, soit le groupe, soit ceux qui font une représentation sont devant, et puis il y a plusieurs endroits où se situer, et en fonction du prix que l'on met, on est plus ou moins devant ou plus ou moins loin. Donc voilà, le pharisien, lui, il voulait la place number one. La deuxième. Parce que la première, elle est déjà prise par l'artiste. En remplissant fidèlement son devoir, il se croyait pouvoir s'en faire un titre de propre justice devant Dieu. Si on lui avait dit... Là, si quelqu'un s'était levé en lui disant « Mais ton assurance, elle est fondée sur toi-même, elle n'est pas fondée sur Dieu. » Il aurait protesté vigoureusement. « 104 fois je jeûne et je donne la dîme de tout. Tu crois pas que je mérite quelque chose ?» Mais en plus, il croit de tout son cœur en Dieu et il ne voit pas comment son dévouement pour Dieu peut aller à l'encontre de la volonté divine. Et cette même erreur a été commise par le peuple d'Israël, ce que l'apôtre Paul leur dit dans Romains 10, « Car je leur rends ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. En ignorant la justice de Dieu et en cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » Voilà. Les Juifs avaient un grand zèle pour les choses de Dieu, mais un zèle qui s'appuyait sur un faux fondement. Et là, malheureusement, la religion peut faire obstruction à l'entrée du royaume de Dieu, parce qu'elle donne une fausse idée, elle donne une fausse sécurité, une fausse assurance pour ceux qui la pratiquent, et l'empêche d'avoir une véritable connaissance de la grâce de Dieu. Parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi et pas par les œuvres. C'était sur la base de ces activités religieuses que le pharisien s'estimait meilleur que les autres. Donc il se croyait accepté par Dieu. Malheureusement, il avait tort et la conclusion de cette parabole nous l'indique. Bon, là, il est question du pharisien, mais je pense que ça s'applique à toutes les personnes qui ont ce genre d'attitude. Ceux qui croient en elles-mêmes être vertueuses, croyantes ou pas croyantes. Ils s'imaginent qu'ils peuvent se justifier devant Dieu. Prenez un riche, prenez un pauvre. Le riche dit, Seigneur, j'ai de l'argent, donc j'ai mon billet pour aller là-haut. Et le pauvre, il a rien, il dit, moi j'ai rien. Donc j'ai rien, donc je ne suis rien. Mais Dieu n'est pas comme ça. Nous avons souligné la notion du cœur. Dieu regarde là. Il ne regarde ni notre portefeuille, ni autre chose. Alors qu'en est-il de l'autre personnage, le publicain? Est-ce que lui démontrait de l'assurance? Pas du tout! Absolument pas! Il est là au fond, il n'ose même pas lever les yeux au ciel, et il se frappe la poitrine en disant « Oh, Seigneur, aie pitié de moi !» Tout dans cette personne, dans son attitude, aussi bien que dans ses paroles, dénote de l'incertitude. « Seigneur, est-ce que tu vas me pardonner ? Moi qui suis le pécheur. » Est-ce que je vais mériter ton approbation? Est-ce que je vais repartir quand même avec l'assurance d'un peut-être un tout petit pardon? Ou au moins je sors sans être condamné? Déjà, ça serait bien. Mais il demande à Dieu que Dieu lui fasse miséricorde. Est-ce que Dieu allait écouter sa prière? Est-ce que Dieu allait écouter sa prière? Verset 14, le verdict tombe. Le publicain n'en est peut-être pas sûr à ce moment-là, mais en tout cas, Dieu lui dit, il est justifié, il est devenu juste. Le publicain se retourna chez lui sans emporter dans son cœur l'assurance du pardon de ses péchés. Mais tôt ou tard, cela se produira, il aura ce sentiment que Dieu l'a pardonné. Mais tout individu qui s'approche de Dieu avec cette attitude sentira un jour la présence de Dieu. Dieu n'est jamais indifférent au cri de désespoir d'un de ses enfants. Le Seigneur est toujours prêt à recevoir le pécheur qui s'adresse à lui simplement de cette manière. Cela nous amène, nous, à nous chrétiens, à se dire quelque chose qui est essentiel à notre croissance spirituelle, c'est de savoir remercier Dieu, pas pour ce que nous sommes, ou pour ce que nous avons, pour ce que nous savons, mais remercier Dieu pour ce que Dieu est envers nous, de ce qu'il a fait envers nous, de ce qu'il nous accorde. L'apôtre Paul dit des païens en Romains 1:21, ils ont refusé de rendre grâce à Dieu. En se détournant du péché, nous nous détachons d'un esprit ingrat pour nous tourner vers un Dieu de reconnaissance, vivante de sa miséricorde. Nous devons croître aussi en gratitude. Est-ce que nous sachons remercier Dieu? Ça paraît tellement évident, on a l'impression que tout est acquis, droit et devoir de Dieu envers nous, que nous ne savons même pas lui dire « Merci Seigneur, merci parce que déjà je suis là, tu m'as permis d'être là. Merci Seigneur parce que tu me permets de venir dans ta maison, tu m'as donné les moyens d'y venir. Merci Seigneur parce que tu me permets de savoir jouer du piano, de savoir mettre en œuvre technique ce qui se passe aujourd'hui. Merci Seigneur pour ce que tu m'accordes de faire dans la journée. » Pour ta protection, Pour ce sacrifice de Jésus sur la croix, pour moi, parce que j'ai pas besoin de payer quelque chose. Tu l'as déjà payé. La reconnaissance continue de la bonté, de la grâce et de la miséricorde de Dieu, elle est déterminante pour notre croissance spirituelle et notre service à Dieu. Pour pouvoir grandir, continuer à grandir, il faut savoir remercier Dieu, louer Dieu pour ce qu'il nous donne. Parce que ce que nous faisons, c'est pour lui rendre gloire, pas pour la nôtre. La parabole du pharisien et du publicain met en présence deux hommes dont les dispositions morales sont au pôle opposé de la vie religieuse. Son message principal est l'énoncé final et ça sera la phrase de conclusion. Quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. À la fin des temps, Dieu élèvera celui qui s'est abaissé et il abaissera celui qui se sera élevé. Dieu nous demande d'être des hommes et des femmes reconnaissants de la grâce qu'il nous accorde et pas de ce que nous croyons faire de juste envers lui. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.